Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il est 30 pile, donc je prends une à deux minutes comme ça pour introduire le sujet. Ça permet à quelques retardataires de prendre place. En tout cas, bienvenue pour ce premier café débat de la saison. Hein. Vous avez ce programme que vous pouvez, donc qui est rose hein, cette année. Vous avez tout le programme jusqu'au mois de mai de nos rencontres. Hein. Ce premier café débat s'inscrit dans la thématique de la fête de la science hein, qui a commencé en début de semaine. Et qui trouvera son point d'orgue ce week-end au centre des congrès dans son village des sciences. Nous sommes cette année sur la thématique du réchauffement climatique, de la transition climatique, pour être plus précis, sur les transitions, qu'elles soient climatiques, écologiques. Et à l'heure du déjeuner, quoi de plus naturel que de parler alimentation ? Et plus précisément, nous allons questionner le système alimentaire actuel, mondial, qui est gros pourvoyeur de gaz à effet de serre, entre autres. Et donc, c'est le sujet de ce café débat. Pour nous éclairer là-dessus, ben, j'ai plaisir d'accueillir nos deux invités. Alors, pour ne pas corcher vos noms, j'ai dénoté. Donc, Madame Michaëlle Rabillet de l'ASDER, merci beaucoup d'être présent. Franck Villermet du GAEC Petite Nature. Donc merci de nous apporter à la fois un éclairage scientifique sur cette problématique, mais aussi des sources de solutions et qui plus est, les plus locales possibles compte tenu de notre problématique. Je rappelle à toutes et à tous le fonctionnement de nos cafés débats hybrides, dans le sens où on va laisser à nos invités la première partie une petite demi-heure pour nous exposer la problématique et nous garderons la deuxième demi-heure pour justement échanger avec nos invités. Je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Donc je suis Michaëlle Rabillet et je travaille à l'ASDER. On vous propose avec Franck de faire en deux temps, c'est-à-dire que moi je vais être plus sur la partie théorique, à la fois du constat et des propositions qu'on peut faire en termes d'alimentation pour le futur, pour d'ici 2050. Et puis Franck apportera la partie réelle, réaliste de choix qu'ils ont fait depuis pas mal d'années sur leur GAEC. Et comme ça, on aura un peu les deux visions, ce qui est plutôt intéressant pour vous, parce que la vision que théorique, elle peut poser beaucoup de questions. L'idée, c'est de savoir est-ce que c'est faisable. Alors, juste un mot, donc il y a un petit diaporama, mais assez court, je l'ai fait vraiment court pour que ce soit pas trop lourd pour vous, mais ça permet d'avoir un peu de support. Juste deux mots sur l'ASDER, l'association dans laquelle je travaille, qui est un espace information énergie qui conseille et sensibilise les particuliers sur toutes les questions autour notamment de l'habitat, donc plutôt du bâtiment, les particuliers, les collectivités, les copropriétés qui sont en réflexion et aujourd'hui il y en a de plus en plus autour de comment consommer moins d'énergie, rénover mon habitat et quel choix d'énergie possible je peux faire. Donc nous on est financé par des organismes publics, ce qui fait qu'on n'a aucun lien avec des privés. Et donc ça va de voilà, la région, l'État et puis les collectivités locales, comme Grand Chambéry pour Chambéry, pour faire ce conseil gratuit aux particuliers. Voilà. Et en fait, on s'inscrit dans une démarche plus globale qui est le scénario Négawatt, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des 3 à 4 scénarios qui sont sortis ces derniers temps autour de comment fait-on pour avoir une vraie transition écologique et énergétique d'ici 2050, 2060. On repousse un petit peu parce que ce scénario, en fait, c'est le deuxième qu'on fait et au niveau de l'association Négawatt, et on est obligé de repousser parce que rien n'est fait concrètement, hein, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc on redécale un petit peu chaque nouveau scénario, mais en tous les cas, l'idée, c'est de dire comment on fait pour être autonome énergétiquement et au niveau, évidemment, alimentaire, en 2050, en France, à l'échelle nationale. Et avec les propositions qui sont faites, ça marche. Donc c'est possible. Donc là, ça va être juste la présentation du scénario AFTER qui s'intègre dans les scénarios Négawatt. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site internet de Solagro, qui est l'association qui a fait ce scénario AFTER, qui est le scénario agricole possible, ou en tout cas un des scénarios agricoles possibles pour 2050 pour réussir la transition énergétique et écologique. Donc c'est un travail qui va concilier alimentation, production de matériaux et d'énergie, réduction de gaz à effet de serre, et puis réduction, on disait, de l'empreinte écologique globale. Vous n'hésitez pas à nous couper, hein, même si on fait une présentation, vous pouvez nous couper, enfin, nous couper pendant la présentation pour des besoins de compréhension notamment. Alors, les enjeux climatiques autour de l'agriculture, notamment et de l'alimentation, c'est d'abord l'atténuation de notre empreinte carbone, hein, de nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont au niveau agricole essentiellement dues à l'élevage avec le méthane, donc le rho des vaches, hein, pas le paix des vaches, c'est parfois des incompréhensions, mais si vous voulez vraiment briller en société, vous sachez que c'est le rho des vaches qui émet du méthane. Le protoxyde d'azote, donc là on est plus sur les cultures, et puis le CO2 qui est toutes les... Dès qu'on va consommer de l'énergie pour l'agriculture, eh ben, on va émettre du CO2 comme nous quand on consomme de l'énergie pour se déplacer. Voilà. Ensuite, il va falloir s'adapter, on le voit cette année, et je pense que Franck en parlera plus, s'adapter aux dérèglements climatiques et aux évolutions climatiques. Ça, c'est une grosse partie des enjeux également, c'est comment on fait pour continuer à produire avec des étés comme on a eu cette année, et puis des événements climatiques extrêmes. Et le troisième enjeu, c'est l'agriculture et la sylviculture vont être là pour stocker du carbone également. C'est-à-dire que vous savez que les plantes qui poussent capte du CO2 et du coup ça va être un impact très important aussi sur le dérèglement, la limitation. Bon, les diapos sont un peu chargés, je vous l'accorde, mais regardez surtout le schéma. L'idée c'était de vous dire quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, de notre empreinte carbone de l'alimentation aujourd'hui, en fait, on parle de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de la production vraiment dans les champs jusqu'à la fourchette. Et là, on représente 40% des émissions de gaz à effet de serre par notre alimentation, on représente 40%. Mais ça veut dire qu'on a plein de choses qu'on prend en compte et qu'on n'imagine pas forcément. Ça va effectivement donc de l'agriculture à l'élevage, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Ensuite, la transformation alimentaire, la fabrication d'emballages, le transport des marchandises et la perte en ligne, puisqu'on a énormément de pertes, le déplacement des voitures pour faire les courses, la préparation des aliments, la congélation et la réfrigération, et ensuite les déchets. Tout ça est pris en compte dans le bilan carbone de notre alimentation. Et évidemment, plus le circuit est court, plus le cercle va se réduire et moins on aura d'impact. Ça, on le comprend vite. On peut enlever quand même pas mal de parts du cercle. Dans les autres enjeux, donc on avait les enjeux environnementaux, on a les enjeux sanitaires également, avec l'enjeu de dire comment on se nourrit correctement et on continue à se nourrir correctement d'ici 2050, c'est-à-dire plutôt éviter la malbouffe vers laquelle on tend quand même dans nos pays civilisés, dits civilisés. Comment on évite par des changements de mode de production type vache folle, poulet à la dioxine, etc., les risques sanitaires également. Et puis, tout l'impact, il y a toute une campagne actuellement sur l'impact des phytosanitaires également, utilisés en agriculture conventionnelle. Donc cet impact-là sur notre santé, qui est de plus en plus révélé. Évidemment, qualité de l'eau, qualité de l'air et qualité des sols. Impact sur la biodiversité, des choix agricoles, hein. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont des aides pour refaire du remembrement, pour recréer des mares, recréer des zones humides. Et donc, il y a des aides accordées par l'État pour recréer ce qu'on a enlevé il y a quelques années. Donc, il y a quand même une vraie prise de conscience. Et puis, les enjeux sociétaux avec une population grandissante. On sait que sur le bassin chambérien, je crois qu'on a 3 jours d'autonomie, c'est ça ? D'autonomie alimentaire à peu près, hein. On dirait pas plus que 3 jours d'autonomie alimentaire avec une population qui est vraiment grandissante chaque année. Donc ça pose quand même question aussi, hein. Et puis les qualités gustatives des produits qui vont aussi, pour certains quand même, pas forcément dans le bon sens. Alors comment nourrir 9 milliards d'hommes, d'êtres humains en 2050 ? Il y a eu des écrits, hein, notamment du CIRAD, mais aussi de l'OMS, de l'ONC, qui ont dit c'est possible, mais il va falloir changer de modèle agricole. Avec le modèle agricole actuel, ça ne marche pas. Alors, la construction du scénario pour donner un peu des solutions, du scénario after, En fait, l'idée, c'est de partir, alors je vais vous mettre ici, c'est partir des besoins alimentaires, des besoins vraiment nutritionnels, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est des agronomes, hein, mais ils ont travaillé avec des nutritionnistes pour dire, ok, pour que ça marche bien, aujourd'hui, un enfant, un adolescent, un adulte, qu'est-ce qu'il doit avoir dans son assiette en matière de protéines végétales, animales, vitamines, etc. Et quelle est la répartition d'une assiette équilibrée. Et de là, de ces besoins-là, ils sont partis pour dire, eh ben, l'offre agricole pour une autonomie alimentaire, elle va être de temps. Et voilà ce qu'elle devrait fournir, quoi. Ce qui fait qu'on va avoir une assiette alimentaire qui va énormément évoluer. Donc eux, ils ont pris l'offre, ils ont évalué avec la demande vraiment les besoins et ils ont fait un arbitrage pour proposer un scénario agricole. Alors, je vais peut-être aller... Voilà. Donc là, on a les besoins en alimentation humaine, alimentation animale, et puis ils ont également évalué les importations et les exportations, puisque c'est quand même... On fait partie d'un monde où il y a quand même des échanges, même s'ils vont beaucoup les diminuer sur certains. Typiquement, par exemple, il y aura dans le scénario after, il n'y a plus d'importation de soja d'Amérique du Sud pour les animaux français. Donc ça fait partie des choix faits dans le scénario. Donc on part de la demande, on transforme ça sur le papier, bien sûr, hein, en hectares et en production agricole. Et puis ensuite, on a le bilan en gaz à effet de serre et en émission de CO2. Alors juste quelques images pour rendre un peu plus concret notre alimentation. Ici, on est en Allemagne. Vous voyez, avec 500 $ de dépenses alimentaires par semaine par ménage, et on est quand même sur quelque chose où on a trop d'apports, notamment vous voyez les sodas, les bières, les jus de fruits, la viande sur le côté gauche, qui est plutôt en trop grande quantité. C'est assez inégal dans le monde parce qu'ici on est au Bhoutan et on est à 5 $ par semaine avec pas la même population. En plus, hein, la famille est quand même un peu plus grande puisque là on est 4. C'est ce qu'on consomme, ce que consomme un Allemand, une famille allemande classique à la semaine. Hein. Ça fait une sacrée quantité quand même. Et là on est au Bhoutan et vous voyez que la famille est multipliée par 4 en termes de nombre de personnes. Et la quantité d'aliments beaucoup moins importante, alors avec quand même une grosse partie de céréales dans le sac sur la droite, qui est vraiment la base de l'alimentation et majoritairement des légumes. Et aucun emballage. Une ou deux bouteilles, mais c'est tout. Ici, on est en Égypte, et là, c'est plutôt équilibré, quand même, comme alimentation, avec beaucoup de fruits et de légumes également, des céréales et du pain, et on est plutôt sur quelque chose de bien équilibré. Et un peu la même chose pour l'Italie, on se rapproche sur certaines parties, on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de boissons sucrées et de soda au fond, et d'emballage, mais on a un peu plus de pain et de fruits que sur l'Allemagne. Alors on n'a pas la France, mais... On doit être assez entre l'Allemagne et l'Italie, pour la moyenne évidemment hein, des familles françaises. Donc dans le scénario, l'idée c'est de dire, avec les nutritionnistes, on va réduire les consommations, les surconsommations globales. Donc les surconsommations de protéines, actuellement on est à 90 grammes par jour, par personne, il faudrait être à 152 grammes. Donc, il faudrait voilà, passer à 15% de surconsommation. On accepte une surconsommation en se disant qu'il y a quand même des aspects culturels aussi qui sont assez importants et que voilà, faut en tenir compte. Grosse diminution du sucre, puisqu'on est à l'équivalent de 20 morceaux de sucre ingérés par personne et par jour aujourd'hui en France. Ça paraît énorme, hein, mais il y en a vraiment beaucoup, hein, du sucre un peu partout. Donc ça, c'est vraiment réduire les surconsommations. C'est réduire les pertes et gaspillages alimentaires. Aujourd'hui, on est à 190 kg par an par personne de la sortie de la ferme jusqu'à l'ingestion sur 900 kg consommés. Donc le reste, c'est des pertes. Entre 900 et 190, c'est des pertes en circuit. Donc il y a les pertes un peu inévitables de transformation, de première transformation. Ensuite, il y a les pertes dans la chaîne de froid, rupture de la chaîne de froid, les produits périmés, et puis les pertes à l'assiette, la surconsommation. J'ai entendu l'exemple d'une collègue là, qui m'a dit qu'elle avait mangé dans un self, je ne sais plus lequel c'est, sur Chambéry, où si, comme c'est un self et qu'on se sert son assiette, s'il en reste dans l'assiette, on paye 6 euros de plus le repas. C'est plutôt assez... ça doit fonctionner. Hein. Je ne sais pas s'il propose des doggy bags, mais en tout cas l'idée c'est de ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre et de bien gérer ce dont on a besoin, surtout qu'on peut revenir. Donc, et puis, diviser par deux les pertes inévitables, c'est-à-dire recycler les biodéchets. La fraction fermentée cible, c'est quand même important de la récupérer et de la recycler. Et ça, il y a des directives qui sont en train de sortir, mais qui vont être difficiles à atteindre parce que c'est compliqué à mettre en place tant qu'il n'y a pas quelque chose d'assez drastique. Et puis, sur les productions végétales, je vais aller vite parce que c'est plutôt toi qui vas en parler, mais une grosse diminution de la partie lait et viande également. Ça, c'est vraiment important de diminuer nos consommations de lait et de viande. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne mange plus de viande, mais qu'on en mange plus deux fois par jour, ce qui est le cas encore hein, de beaucoup de personnes. Et puis, le lait, le problème du lait, c'est que pour avoir du lait, il faut de la viande, puisqu'il faut des petits veaux et il faut des petits agneaux et il faut les consommer, ou en tout cas, ils font partie d'un système après, et donc les deux sont vraiment liés, donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Alors ça donne quoi en termes d'assiette? Je vais la montrer ici, la nouvelle assiette de 2050 par rapport à 2010. Donc vous voyez, la proportion de lait, on passe de 616 à 255, c'est des grammes par personne. La proportion de viande, on passe de 266 à 120, c'est-à-dire qu'on divise par deux. Et puis, ce qui est le plus important peut-être à remarquer, c'est qu'on augmente vraiment la partie céréales et petits fruits et légumes qui augmentent aussi de 200 grammes par jour et par personne. On garde les boissons alcooliques à peu près sur la même proportion, un peu moins, mais sur la même proportion. C'est beaucoup d'épicuriens chez Solagro, donc ils ont eu du mal à diminuer cette partie-là. L'idée, c'est vraiment l'idée de ces scénarios-là aussi, c'est de se dire... Il faut continuer à se faire plaisir. La sobriété, c'est pas quelque chose qu'on doit imposer aux gens. Ce qu'on entend un petit peu actuellement, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on doit continuer à avoir. On peut être sobre et en ayant les mêmes plaisirs et les mêmes besoins assouvis. C'est pas de se contraindre trop et de se faire quand même, continuer à se faire plaisir. Voilà. J'ai fini pour ma petite partie. Et puis on pourra revenir dessus si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Et je vais laisser Franck expliquer la vraie vie de l'agriculteur après la théorie.
Bonjour, donc moi c'est Franck Vuillermet, je suis maraîcher sur Chambéry, au GAEC Petite Nature. Alors Petite Nature c'est pas moi, hein, c'est le nom du GAEC. GAEC ça veut dire Groupement Agricole en Commun. Donc on est deux associés, ma femme et moi, et on a une salariée. Avec nous. On est à trois à bosser sur cette structure agricole. On a 3 hectares et répartis sur Chambéry. Et on est les derniers maraîchers de Chambéry. Donc nous, la plus grosse problématique, en fait, ça a été de garder le foncier. J'ai repris l'exploitation de mon père en 96. En fait, c'est une exploitation agricole qui est très ancienne parce que c'est mon arrière-grand-père qui avait acheté la ferme début 1900. Donc c'est des vieilles fermes agricoles et en fait, je ne sais pas si vous voyez où c'est situé, on est à côté du parc d'exposition, côté des conventions, derrière le phare, et chemin Charrière-Neuve. Il y a de ça 30-40 ans, l'autre fois on avait raconté, il y avait 5 familles agricoles, rien que sur Charrière-Neuve. Donc en fait, Bissy, c'était vraiment le grenier à grains de Chambéry en fait. Il y a, 40 ans, 50 ans de ça, Chambéry était quasiment autonome en alimentation, en local. Le problème, c'est que maintenant, on est les derniers maraîchers. Sur 3 hectares, on fait à peu près 200 paniers de légumes par semaine. En fait, on, On vend sur place, sur l'exploitation, et on a à peu près 200 clients par semaine. Donc on estime nourrir à peu près 600 à 800 personnes. Donc c'est rien sur une population de 50 000 habitants de Chambéry. Ben, il faudrait, je sais pas, il faudrait combien il faudrait faire des calculs, mais il faut peut-être 500 hectares de légumes, voire beaucoup plus que ça. Et puis à la fois, c'est pas mal parce que 5 sur 3 hectares en légumes, c'est quand même assez. Enfin, on peut quand même produire pas mal de nourriture sur 3 hectares. On serait par exemple éleveur au lieu d'être maraîcher. On nourrirait peut-être 10 personnes parce que bon, il faut un hectare pour une vache. Donc on pourrait faire que 3 vaches. Donc 3 vaches, ça nourrit peut-être, je sais pas, 10-20 personnes, je sais pas. Du coup, en maraîchage, on a quand même cette chance-là de fournir beaucoup d'aliments pour sur peu de surface. Donc le plus gros combat, je pense que le plus gros défi à terme, c'est de favoriser le maraîchage et de conserver les dernières terres agricoles sur Chambéry. Le souci, c'est qu'on ne peut pas faire du maraîchage n'importe où. Il faut être sur du plat, il faut de la bonne terre, et puis il faut avoir accès à l'eau. Et ces trois paramètres sont réunis sur BC. C'est pour ça qu'en fait, il y avait tant de maraîchers avant sur BC, sur toute, en fait, entre, même sur la Motte, Servolex, Cognin, tout ça, il y a toujours eu beaucoup de maraîchers parce qu'on avait un accès à l'eau, quoi. Maintenant que l'urbanisation prend le dessus, il n'y a plus de paysans vraiment sur la cluse de Chambéry, ils sont sur les coteaux. Donc soit de l'Épine, soit le coteau des Bauges, mais là il n'y a plus d'eau. Donc cet été ça fait mal à certains. Nous on avait quand même accès à l'eau, on a quand même continué à arroser. Et on a pu sauver pas mal de légumes, quoi. Voilà, quoi dire d'autre. On est en bio aussi. Je voulais vous expliquer un petit peu la bio, parce que on est passé en 2004 en bio. Donc la bio, les producteurs en bio sont quand même un petit peu plus résilients qu'en conventionnel, parce qu'on a moins besoin de produits pétroliers. En fait, les conventionnels, là, ils ont un gros souci, quand on voit l'augmentation du prix du pétrole, c'est qu'eux, ils fertilisent leur terrain avec des engrais chimiques, et notamment des engrais azotés, et il faut 3 kg de gaz pour faire 1 kg d'azote. Et donc, eux, l'engrais chimique, pour eux, ça va vraiment être une énorme charge pour pouvoir fertiliser leur terrain. Plus, ils utilisent aussi tous les produits chimiques de traitement, donc ils sont uniquement issus des produits pétroliers. Donc là, c'est pareil, leurs charges ont vraiment augmenté. Par contre, en bio, nous, c'est que de l'organique. Donc on fertilise uniquement avec du fumier. Donc nous, en perso, on va récupérer du fumier de cheval sur la Motte Servolex. Donc on s'en sert pour... donc en fait, c'est que du local. On s'en sert pour fertiliser nos terrains. Et tout ce qui est traitement, soit c'est des minéraux, soit du soufre ou du cuivre, notamment pour la bouillie bordelaise, pour éviter le mildiou sur les patates. Soit c'est du purin d'ortie, c'est des huiles essentielles. On utilise ces produits-là, donc en fait, ils sont beaucoup moins dépendants du pétrole. Par contre, faut pas rêver non plus, c'est que cultiver 3 hectares avec 3 personnes seulement, on a des tracteurs, on utilise du pétrole, on consomme 1000 litres de fuel par an, on a des tunnels plastiques, il y a de l'acier, les arceaux sont en acier, le plastique de couverture, c'est du pétrole, qu'on change tous les 10 ans, donc on a quand même une grosse dépendance au pétrole. Et c'est vrai que dans le temps, il y avait une alimentation qui était beaucoup moins diversifiée que maintenant. Nous, on a de la salade toute l'année, alors qu'en fait, les anciens, il y a 50 ans de ça, l'hiver, ils mangeaient des choux ou des poireaux ou de la mâche qui supportaient le froid. Alors que nous, on a de la, l'étude, la batavia, tout ça, pendant toute l'année, même en plein mois de janvier, des épinards et tout, grâce au tunnel. Après, on a des tomates aussi, l'été. Donc, l'été, avant, enfin, il y a 50 ans de ça, il n'y avait pas de tomates non plus. Donc, les tunnels, l'été, nous permet d'éviter l'humidité sur les tomates. Parce qu'en fait, c'est très sensible au mildiou, la tomate. Donc, le fait de mettre les tomates à l'abri de l'humidité évite qu'elles chopent le mildiou et on n'a pas besoin de faire de traitement dessus. Donc, voilà, sans tunnel, les maraîchers, ils ne pourront pas survivre à l'heure actuelle. Quoi. En fait, ben, les animaux, à fond, il y en avait, hein, du temps de mon grand-père et tout ça. En fait, du temps de mon grand-père, c'était plutôt de la polyculture élevage. En fait, ils faisaient du maraîchage, de l'élevage, il y avait de la vigne et tout ça. Ils étaient beaucoup. Il y avait plus diversifié, alors que nous, on s'est plutôt spécialisé en maraîchage, mais on s'est diversifié qu'en maraîchage. Quoi. Non, il n'y a plus d'animaux.
Ben merci pour cette première partie d'intervention. Merci de nous avoir posé le cadre. Je vais passer le micro, comme ça, ça permet déjà d'enregistrer et surtout de bien entendre.
C'est juste pour une remarque, parce que je ne comprends pas votre assiette là. C'est quelque chose qui est évalué au niveau mondial ou au niveau français ?
Non. Le scénario after, il est pour la France.
Ah,
voilà, typiquement pour la France. Et après, les interactions sont européennes, voire mondiales pour les importations et les exportations. Mais par contre, le scénario proposé, il est franco-français, ouais.
Oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi les poissons et crustacés étaient divisés par 10. C'est vraiment très, très choquant.
Oui, alors ça, c'est plus par rapport à une réalité de la ressource halieutique qui est en train de vraiment... être mise à mal et qui...
Alors c'est pour éviter d'importer de l'autre bout du monde, alors.
Oui, et pour se dire que la pêche, d'ici quelques années, il n'y aura plus grand-chose à pêcher. C'est vraiment la réalité de l'évolution des...
Non, parce que le chiffre m'avait beaucoup...
Ouais. Okay, je comprenais. Non, c'est plus qu'on est en surconsommation par rapport au potentiel aujourd'hui, ça c'est sûr.
Ok, merci.
Bonjour, alors moi je travaille à la Fondation du Bocage et à la Fondation du Bocage on a un lycée qui est agricole où on prépare les jeunes sur l'horticulture, les métiers du paysage et les services à la personne. Et en horticulture cette année, en BTS, donc pour la suite de Monsieur Villermet, on a 6 personnes. Donc ça c'est un autre pan, c'est aussi dans l'assiette, qu'est-ce qu'on met et comment on forme nos jeunes aussi aux besoins de demain, sachant qu'en plus on a... plein de bien plus seniors que M. Villermet qui partent à la retraite dans les années à venir et qui vont laisser leur ferme. Voilà. Donc c'est vraiment des questions aussi, je ne sais pas si elles sont aussi posées sur la table sur ces questions de scénario.
Oui, c'est clair qu'on va manquer de bras en agricole. Hein. Le souci, c'est qu'en plus, on aura de moins en moins accès au pétrole. Et je sais qu'un litre de pétrole, enfin, tu confirmeras, ça représente le travail humain d'une personne sur 5-6 jours. Donc en fait, le pétrole, c'est fabuleux, quoi. Ça évite d'avoir trop de... Ça a déjà limité l'esclavage. Parce que si on n'a plus de pétrole, et puis s'il n'y a plus personne pour bosser dans les champs, oui, ça va être un réel souci, quoi. Je ne sais pas, de solution à ça. Peut-être qu'il faudrait revaloriser plus le coût du travail agricole. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je bosse en agricole, 25 ans que je suis au SMIC. Hein. Voilà. Après, quand vous êtes chef d'exploitation, si vous avez un souci de maladie et tout, vous avez une semaine de carence à la MSA, alors qu'en salarié, c'est 2 jours. Vous n'avez pas de droit au chômage. Si demain je m'arrête mon activité, j'ai pas de droit au chômage. J'ai une petite retraite, alors du coup, je m'en mets de côté. voilà quoi. Enfin, je pense qu'il y a tout ce côté social qui devrait être retravaillé, repensé. Parce que c'est clair que faut y réfléchir longtemps à l'avance, quoi.
Du coup, pour compléter, c'est vrai que c'est des questions qui se sont posées dans le scénario aussi, en se disant, en termes de création d'emplois. C'est-à-dire que, par exemple, pour le scénario énergétique, on arrête la dernière centrale nucléaire en 2040, 2035, je crois. Mais donc, on a une perte d'emplois de ces gens-là, mais c'est rebasculé par des emplois, notamment dans les énergies renouvelables, où il faudra beaucoup plus d'emplois et plus de main-d'œuvre. Et on le voit, nous, en termes de rénovation énergétique aujourd'hui, on a aussi un manque d'artisans sur le bassin chambérien. Il y a énormément de gens qui sont en recherche, qui vont faire des travaux et qui n'ont pas d'artisans. Alors, les métiers de main, d'artisanat, agricole et autres, ils n'ont jamais été valorisés. C'était parce que j'ai l'impression que ça se revalorisait un petit peu dans les études, mais c'était encore il y a 4-5 ans une voie de garage en troisième, quoi. Donc tant qu'on n'a pas valorisé et au bout de la chaîne, c'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on accepte de payer le vrai prix et le juste prix des produits parce qu'il y a eu de la main-d'œuvre, et ça, il faudra peut-être le faire le plus rapidement possible, vraiment payer le juste prix, et que la valorisation culturelle soit importante, que ce soit des vrais métiers valorisés parce que c'est des métiers d'art, quoi. Que ce soit le maraîchage ou la chaudronnerie ou l'artisanat, le plombier. Ouais, je crois qu'il y a un gros travail culturel à faire là-dessus.
Oui, tout d'abord, merci pour ces deux présentations très intéressantes. Je voudrais faire deux remarques sur ce que vous avez présenté et puis aller un petit peu en complément de ce que vous venez de dire. Sur les deux remarques, j'ai un peu de mal à comprendre les comparaisons que vous faites en dollars entre une famille allemande, une famille du Bhoutan, une famille en Égypte, une famille en Sicile. Je crois qu'il faut éviter ces comparaisons parce que ça perturbe complètement, parce que c'est incomparable un dollar au Bhoutan et un dollar en Allemagne. On a aussi des populations qui sont en autoproduction, donc je crois qu'il y avait un vrai problème statistique, à mon avis.
Peut-être qu'on peut enlever les dollars, effectivement. Garder la quantité, mais enlever le prix qui en plus...
Exactement, parce que sinon, on est dans la post-vérité, on fait dire n'importe quoi aux chiffres, et après, il n'y a plus d'arguments. L'autre point, c'est pour vous, monsieur, moi, je préférais qu'on ne parle pas d'agriculture conventionnelle, mais qu'on parle d'agriculture industrielle ou pétrolière, parce que quand on dit conventionnel, on donne aussi des bâtons pour se faire battre, parce qu'on a l'impression que c'est la vraie agriculture, puisqu'elle est conventionnelle, hein, voilà, c'est une convention. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention aussi, excusez-moi cette remarque, ne la prenez pas mal, mais au vocabulaire qu'on utilise, parce que parfois on intègre le discours des autres qu'on cherche à contrebattre, et je pense qu'on adore. Voilà. Alors, sur les autres points, moi j'entends tout à fait ce qu'il dit sur les problèmes d'orientation. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à m'en occuper. Je pense qu'il faut attendre un peu que ça percole, parce qu'il faut du temps pour que les représentations des professionnels bougent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années, vous avez raison, avec le Covid, avec la crise, avec les sécheresses, etc. Il y aura des effets en matière de comportement, mais c'est un phénomène qui est plus lent que ce qu'on le souhaiterait. Mais il est là et il aura aussi des effets sur les prix, parce que vous avez raison, hein, monsieur. Je veux dire, si on veut qu'effectivement on passe à une agriculture et des productions saines, etc., ça coûtera plus cher, y compris dans l'équilibre des budgets. Donc ça, c'est pas le genre de choses qui se transforment du jour au lendemain. Voilà. Mais il faut l'accélérer. C'est le « on parle de « on ne sait pas qui c'est. Je veux dire, simplement, il faut continuer tous à se battre, à afficher, à faire, à montrer, etc. Et ça finira par passer, mais avec un peu de patience, y compris pour le recrutement. J'ai bien compris ce que vous disiez. Le point très, très technique, monsieur, vous avez dit que vous continuiez, malgré votre volonté, à dépendre un peu du pétrole. Et puis, vous avez aussi rappelé des choses que... On a aboli l'esclavage grâce au pétrole aussi. D'abord au charbon, puis ensuite au pétrole. Parce qu'en gros, si on voulait vivre sans charbon ni pétrole, surtout sans pétrole et gaz maintenant, en gros, il nous faudrait chacun 200 esclaves à peu près pour que ça marche. Ça ferait encore des bouches à nourrir, je ne sais pas comment on y arriverait. Mais quel substitut il y a à cette forme d'énergie, que ce soit sous la forme d'énergie pour faire tourner vos machines? Tout à l'heure, vous parliez des tunnels avec les protections. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'utiliser d'autres produits pour faire que cette dépendance au pétrole non pas disparaisse du jour au lendemain, je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions, mais en tout cas baisse en pression pour vraiment faire une conversion réussie. Je pense que alors il faut travailler sur les usages et les modes. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas obligé de manger de la laitue tout le temps, mais tout ce qui peut être fait aussi en matière de produits qu'on utilise, de sources d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire, y compris en produisant de l'énergie sur la terre qu'on cultive par l'énergie solaire. On le fait, hein, je veux dire, en Polynésie, on produit de la vanille sous les ombrières qui sont des panneaux solaires. Donc, je veux dire, je crois qu'il y a tout ça à travailler si on veut avancer. Voilà. Merci, j'ai été un peu long, excusez-moi. Mais...
Je dirais, juste par rapport au pétrole, je pense qu'il ne faut pas demander plus à ceux qui font déjà beaucoup. C'est-à-dire que ce serait intéressant de voir qui a fait combien de kilomètres en voiture aujourd'hui et est-ce que c'était une vraie nécessité. Moi, je dirais, c'est mon avis personnel là, hein, du coup, c'est pas. Mais je pense que c'est pas forcément à Franck, sur son exploitation, de consommer moins de pétrole pour nourrir 600 personnes. C'est plus à nous, dans la sobriété par rapport à ça, et aux gros agro-managers qui sont sur des surconsommations monstrueuses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent d'efforts, mais qu'il y a une échelle quand même d'efforts qui est à la fois très impactante. 1000 litres de fuel par an, c'est rien du tout. Il y a des maisons aujourd'hui de 100 mètres carrés qui sont des passoires énergétiques et qui consomment 4000 litres de fuel par an pour se chauffer à plus de 19 degrés. Donc, parce que c'est des passoires et qu'on n'est pas bien à 19 degrés dans ces maisons-là. Donc vous voyez, je pense qu'il faut avoir un peu des ratios et se dire que ça ne veut pas dire que c'est aux autres de faire des efforts, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est de peut-être rationaliser les efforts en se disant que... Alors quand on dit « on », moi je donne deux échelles, hein, c'est effectivement les échelles gouvernementales qui vont prendre, on l'espère, des mesures à un moment donné plus drastiques et plus fortes pour faire qu'on aille un petit peu plus vite parce qu'on est très très en retard. Et puis nous, au quotidien, effectivement, et les échelles des collectivités, et puis nous, en tant qu'habitants et que citoyens. Mais ces trois échelles-là sont importantes, État, collectivité et citoyens.
Je voulais juste vous répondre par rapport au mot conventionnel, en fait, parce que, mine de rien, ça paraît pas important, mais si, c'est quand même important, parce qu'en fait, conventionnel, c'est un mot passe-partout et qui fait mal à personne. Parce que quand vous êtes en bio et puis vous êtes à la chambre d'agriculture face à 50 agriculteurs conventionnels, vous ne pouvez pas leur dire que c'est des industriels du pétrole ou des producteurs chimiques, parce que là, vous vous faites défoncer. En fait, le problème de la bio, c'est qu'on ne représente rien. On est 3-4% d'agriculteurs bio. Donc, si vous voulez, ouais, entre nous, entre bio, on les appelle les producteurs chimiques. Mais quand on est en public, on les appelle les conventionnels, quoi. Ouais, il faut bien voir, il y a un énorme clivage entre la bio et la pas bio, quoi. Et ça devient de plus en plus dur, quoi. Donc ça, c'est dramatique parce qu'il n'y a plus de communication, en fait, si vous voulez, entre les conventionnels et les bio. Et je trouve que c'est très dommageable, quoi.
Moi, j'ai une petite pique pour les organisateurs. Mettre des bouteilles en plastique en 2022 et parler de transition. On est vraiment en phase de transition. J'espère que c'est la fin de vos stocks de bouteilles et que vous allez passer à autre chose pour le prochain café et séance. Bah ouais, en plus. Après, le plastique autour de la gourde aussi. Moi, j'ai une remarque, enfin, un besoin de comprendre un peu plus le scénario, là, after. Est-ce que la fabrication des intrants et des semences et leur transport sont compris dedans? Et alors après, j'ai la suite, est-ce que j'ai cru comprendre que ça n'était pas du magasin donc jusqu'à nos assiettes, c'est-à-dire le transport personnel, est-ce qu'il est compris dedans? Il est compris dedans? Parce que moi, ça fait quelques temps que je ne suis pas allée chez Petite Nature, mais j'y vais en vélo, et chaque fois que j'y allais, je voyais des énormes voitures qui se garaient n'importe comment, c'était... dégueulasse, excusez-moi du terme, on se recrée sur un parking de grande surface. Alors je ne sais pas si Petite Nature, vous avez une sensibilisation vis-à-vis de vos clients. Est-ce que vous savez d'où venaient vos clients? Est-ce que la voiture leur est indispensable? Parce que voilà, moi je suis en vélo, je remplis mes deux sacoches vélo avec mes courses, quoi.
Alors, juste pour répondre dans le micro, le scénario prend tout en compte, hein, les intrants, les transports et les produits chimiques nécessaires. Je ne vous ai pas mis parce que le scénario, c'est 80 diapos, donc je ne voulais pas vous assommer. Mais il y a aussi une répartition des modèles agricoles qui est différente en 2010 et en 2050. Donc la bio qui est à 4-5% aujourd'hui, elle passe à 30%. Et l'agriculture, il y a une agriculture alors qui n'est pas la raisonnée parce qu'on n'aime pas du tout ce terme-là, mais qui est un petit peu entre les deux. Et il y a un tout petit peu de conventionnel qui persiste pour aussi fournir malheureusement des produits pas chers à une population qui ne pourra pas payer le juste prix.
Moi, c'est par rapport aux voitures. Il y a toujours autant de voitures à petite nature. On se fait souvent engueuler qu'il faut agrandir le parking et tout. Ben, on a dit ben non, surtout pas, parce que on va quand même pas empiéter sur les cultures pour, pour qu'il y ait encore de plus en plus de voitures. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai pas la solution. On a quand même, je trouve qu'il y a quand même, depuis 20 ans que Petite Nature est ouverte, enfin que l'exploitation existe, il y a quand même un renouvellement de la clientèle. Il y a de plus en plus de jeunes et les jeunes ils viennent plutôt en vélo. Donc ça c'est quand même un peu rassurant. Après les anciens ils sont accros à la voiture quand même. Et là, je ne sais pas comment faire pour leur empêcher de prendre la bagnole.
Oui, bonjour. J'avais une question sur une diapositive précédente sur la quantité de protéines recommandées. Je voulais savoir si c'était... Voilà, celle-là. Là, c'est que les protéines globalement, ce n'est pas que les protéines animales.
Oui, c'est tout.
Et du coup, ma question, c'était aussi parce que pour réduire notre consommation de protéines animales issues de l'élevage... Il y a un petit peu la mode quand même des steaks de soja, du lait de soja, etc. Or, la culture du soja, elle n'est pas bonne du tout non plus pour la planète. Donc, dans After, qu'est-ce que vous avez prévu du coup comme source de protéines majoritairement?
Alors, on n'est plus sur des protéines végétales, mais en tout cas, vous voyez qu'on n'est pas sur du soja importé, ça c'est sûr, mais sur du soja cultivé en France, c'est possible aussi. Hein, et ça fonctionne, du soja bio. Il y a des agriculteurs bio du côté de Saint-Jean-de-Chevelu qui font du soja, donc ça marche, ouais, très très bien. Donc, et comme la proportion diminue de protéines dans l'assiette, ben, du coup le transfert est possible, quoi.
J'ai une question à vous poser. Je suis donc étudiante en biochimie à l'Université de Lyon. Votre diapo m'a bien intéressée. Par contre, j'ai juste une question et un petit commentaire à dire. C'est que nous, de nos jours, l'industrie agroalimentaire est un peu, même beaucoup intelligente dans la société parce qu'elle nous impose, même si on ne le se rend pas compte, de manger tout ce qui est prêt. Pourquoi ? Pourquoi ? Pardon. C'est pour nous faire gagner du temps, tout ce qui est prêt, déjà pré-cuisiné, etc. Je pense qu'ils ont bien compris le jeu. Et aujourd'hui, on ne peut pas, nettement, aujourd'hui, actuellement, on ne peut pas s'en passer de tout ça. C'est-à-dire, même pour chercher nos courses, on a un caddie de 1 mètre qu'on remplit carrément, ça c'est la réalité qu'on voit. Après, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et ça, vraiment, c'est des choses qu'il faut d'abord, au lieu de voir l'assiette directement, il faut voir la société, la sensibilisation de la société. Je pense que c'est la première chose à voir. Et ensuite, c'est vrai que on a des demandes énormes dans l'industrie. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est emballage, etc. C'est nous qui les consommons et c'est nous qui les payons. Mais après, on se rend compte, bon, ça nous coûte peut-être moins cher que d'acheter du bio. Mais le bio ne coûte pas cher pour notre santé. Enfin, je veux dire, c'est bon pour notre santé. En fait, je ne sais pas comment reformuler, c'est que on paye pour être malade. Voilà. Pour simplifier les choses, on paye pour être malade, tout simplement. Et ma dernière question, c'est que est-ce que on a vraiment mis ça en place dans After? Est-ce qu'on a mis en place des enjeux de sensibilisation ou pas? Voilà.
C'était juste pour rebondir
dessus sur l'histoire de on paye pour se faire du mal, mais en fait c'est surtout qu'il n'y a pas de politique incitative à manger des produits qui seraient plus, enfin qui seraient meilleurs pour notre santé en tout cas. Donc,
on fait de plus en plus quand même d'interventions, enfin il y a des interventions dans les écoles primaires où on parle d'alimentation, il y a quelques produits bio dans les repas cantines scolaires. Alors je dis quelques parce que ce serait quand même bien qu'à Chambéry on aille un peu plus loin. J'en profite parce qu'il y a des élus dans la salle. Mais ça fait mal au cœur comme quand on voit sur le menu de la cantine trois petits drapeaux de bio. Et là, effectivement, on a un peu la sensation de pas faire du bien à nos enfants en les mettant à la cantine. Ça, c'est sûr. Et alors après, il y a pas mal de comparaisons qui ont été faites. Hein. Alors c'est vrai que c'est une question de temps, mais peut-être qu'il y a aussi un rapport au temps qui a changé dans notre société. Mais ça, on est pareil, c'est sur des longues durées. Mais en même temps, on va, à force de dire que ça va prendre du temps, on va tellement être obligé d'aller vite parce qu'on va se prendre une petite claque quand même. Je pense que on va aller plus vite que ce qu'il me faut. Regardez ce qui se passe autour de l'énergie, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On annule des conférences ou des choses, nous, à cause du manque d'essence, quoi. Ce qui est indirectement lié, évidemment, à la crise énergétique, hein, mais voilà, tout est possible, en fait. On peut évoluer très vite, ça peut faire plus ou moins mal au niveau du changement. Mais j'ai perdu mon fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, au niveau de l'alimentation, il y a des calculs qui ont été faits, c'est pas forcément plus cher de s'alimenter en bio si on fabrique son repas par rapport à des repas transformés, suremballés, sans compter le coût énergétique, bien sûr, qui n'a rien à voir, hein, qui serait exponentiel sur l'emballage, la transformation, le transport, tout ça, sur le côté suremballé et produits transformés. Mais même les produits transformés coûtent plus cher au final dans l'assiette du consommateur, mais qui n'en a pas conscience, évidemment.
Alors, autre question, effectivement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il faut prendre le temps, etc. On est bien d'accord, c'est des scénarios, des solutions. Mais vous l'avez dit, on va se prendre une claque, et rapidement. Des scénarios, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont entendus auprès des collectivités? Est-ce que vous avez l'impression que les collectivités se bougent, justement? Parce que ça va arriver vite pour nous, pour nos enfants. La malbouffe, etc. Donc il y a un moment donné, ben, il faut agir aussi. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent?
Moi, je comprends que les collectivités, c'est délicat pour elles aussi, parce que souvent on nous sollicite pour fournir les restaurants scolaires et tout ça. En fait, c'est super compliqué parce que c'est devenu des structures tellement immenses, la Sodexo et tout ça, qui sortent, je ne sais plus, 2000 repas par jour. Aucun agriculteur sur la Savoie peut fournir. En fait, si vous voulez, je reviens toujours en arrière parce que l'histoire explique le présent quand même. Mais quand moi je me suis installé en 96, donc je livrais l'hôpital de Chambéry, en légumes, le Crédit Agricole de la Motte-Servolex, parce qu'ils avaient leur cuisine. Toutes les écoles avaient leur cuisine. Et en fait, toutes les petites structures, parce qu'en fait, c'était que ça, les maraîchers, c'était des petites structures familiales, avaient leur petit restaurateur, leur petite cantine à fournir. Et donc ça marchait bien. Le problème, c'est que tout ça a disparu. Les grandes surfaces sont arrivées. Et toutes les petites exploitations familiales ne sont pas dans les capacités de fournir des Carrefour ou des Leclerc, quoi. On n'a pas les épaules taillées pour ça. Et encore moins pour fournir la Sodexo qui réclame des tomates au mois de mars, quoi. Donc, je sais pas, les collectivités... par rapport au bio, ce que je voulais dire aussi par rapport au bio, c'est qu'on entend beaucoup parler de bio, mais l'État ne soutient pas la bio, mais pas du tout. Et je pense qu'en fait, c'est le problème encore des conventionnels, de la FNSEA notamment, qui bloque tout, quoi. Et ils ont un pouvoir qui est phénoménal jusqu'au plus haut de l'État, et en fait, ils font tout pour que la bio ne se développe pas. Le résultat, c'est que nous, en tant que bio, on ne se sent pas soutenus. Au niveau de la politique agricole commune, jusqu'à il y a 2 ans, on avait droit à l'aide au maintien de la bio. Donc en fait, on touchait 200 euros par hectare. Du coup, ça a été supprimé. Il y a 2 ans, ça a été supprimé. Tout le monde ne comprend pas pourquoi. Mais, ils sont cons, ils veulent développer la bio et puis ils ne soutiennent pas les producteurs bio. Mais je pense que derrière, la FNSEA qui bloque. Quoi. Et ça, je ne sais pas, à part y mettre une bombe, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Non, donc en fait, c'est d'une extrême complexité. Par quel bout y prendre, je ne sais pas.
En tout cas, nos choix à nous, ils sont hyper importants parce que c'est eux qui. C'est parce qu'il y aura de la demande qu'il y aura du potentiel pour des jeunes de s'installer en maraîchage sur le bassin chambérien. Il faut continuer à faire ces choix, c'est sûr.
Bonjour, je voudrais juste revenir sur cette question de l'autonomie alimentaire du territoire. Vous avez évoqué tout à l'heure que sur Chambéry, il y avait 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire localement. Je crois que c'est la métropole de Lyon qui a fait une étude qui disait que 93% de la nourriture produite dans un rayon de 50 km autour de la ville de Lyon partait à l'export, n'était pas consommée localement. Je pense que ça va être de plus en plus important dans les années qui viennent, avec les problématiques énergétiques, mais pas que. Qu'est-ce que vous identifiez à votre niveau en fait, comme levier pour que Chambéry puisse être un territoire résilient d'un point de vue alimentaire? Qu'est-ce qu'on peut activer comme ressources en lien avec les acteurs qui existent déjà? On a parlé des collectivités locales, elles ont sûrement un rôle important. Mais à votre niveau, quelles sont les pistes?
C'est difficile à dire comme ça, hein, mais moi, ce que je vois, les premières pistes, ce serait d'aider à l'installation de jeunes maraîchers. Et ce serait de se dire, aujourd'hui, il y a du coup une nouvelle loi qui est passée pour le pourcentage d'artificialisation des terres. Et donc, on va stopper déjà cette artificialisation. Par contre, il faut quand même aider et favoriser l'installation de jeunes maraîchers. Il y en a des jeunes maraîchers qui sont en attente et qui cherchent des terres. Il n'y a plus de terres aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai que, je sais pas, c'est difficile d'en trouver, quoi.
En fait, le problème, on parle des agriculteurs sans terres au Brésil et tout ça, mais il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Sur Chambéry, les maraîchers sont des agriculteurs sans terres. En fait, le souci, c'est que le maraîchage, il était autour des villes. Il était, donc, comme je disais tout à l'heure, sur Bissy, La Motte, Cognin et tout. Donc là, tous ces maraîchers ont disparu, ça a été bétonné. Et maintenant, en fait, c'est les seules terres qui sont disponibles sont tenues par des éleveurs. Donc, où ils font sur les meilleures terres du maïs, financées par la PAC. Donc, c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Donc, si vous voulez installer des maraîchers, il faut récupérer ces terres où ils font le maïs, les éleveurs. Et là, vous rentrez en guerre avec la FNSEA. Donc, je sais pas. Ça va être compliqué.
Alors c'est juste une petite remarque, moi je suis toujours un petit peu gênée à représenter l'agriculture conventionnelle comme un petit peu un diable, parce qu'ils nous nourrissent quand même aussi. Je suis d'accord avec vous, le mieux c'est du bio local, mais est-ce qu'il vaut pas mieux du local non bio que du bio qui vient de très loin? Donc voilà, du coup, je cherche pas vraiment une réponse, mais juste un petit sujet de réflexion et peut-être pas non plus voir les choses en tout noir et en tout blanc.
Non, mais c'est clair que le bio, il faut qu'il soit local, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Après, ils travaillent très bien, ceux qui sont loin aussi. Hein. En Espagne, ils font du bio et c'est des très bons producteurs aussi. Quoi. Après, c'est le coût du transport, c'est le problème du transport. Mais en conventionnel, quand on voit que des pommes de terre produites dans le Nord partent en Italie pour être nettoyées, pour être après cuisinées je ne sais pas où... Enfin bon, des patates qui ont fait 3 fois le tour de la terre pour revenir dans notre assiette. Je pense que les conventionnels, ils auront aussi pas mal de choses à modifier, quoi.
On va prendre une dernière question.
Je voulais savoir si vous connaissiez le pouvoir d'achat que les Français donnent au niveau alimentaire.
La part de l'alimentation dans le budget d'une famille. Alors je sais que j'ai pas le chiffre actuel, mais je sais que ça a fortement diminué la proportion dans le budget d'une famille, le pourcentage dédié à l'alimentation. Il a été divisé par
13%.
Oui, c'est 13% aujourd'hui et il a été divisé par 3 ces 40 dernières années. Donc c'est un gros sujet, c'est-à-dire c'est encore une question de priorité. Ça, c'est sûr. C'est à chacun de prioriser aussi peut-être différemment ses besoins. Dans le scénario Négawatt, on a l'échelle, vous connaissez peut-être l'échelle des besoins qui voit des besoins vitaux, nécessaires ou superflus. Et en fait, cette échelle-là, elle a aussi beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est à nous, citoyens, de re-réfléchir à ça. Ce que je fais là comme achat ou comme voyage ou comme déplacement ou comme choix de consommation, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est vital ou est-ce que c'est quelque chose de futile, est-ce que je peux m'en passer? Mais on est encore dans des transformations sociétales, hein, ça c'est sûr, hein, c'est fortement lié.
Et du coup, est-ce que ça passerait
du... Alors du coup, je répète la question pour l'enregistrement, c'est l'idée de, est-ce que ça ne viendrait pas de nos enfants et d'éducation? Nous, on intervient par exemple à SDR dans les écoles pour parler énergie et forcément alimentation. Il y a de plus en plus cette ouverture quand même des écoles vers ce sujet-là. Après, c'est pas encore dans les manuels scolaires, mais on est dans le fameux délai dont parlait monsieur tout à l'heure. Mais oui, ça, il y a quand même de plus en plus une prise de conscience chez les enfants. Malheureusement pour eux, ils sont confrontés à ça. On ne l'était pas, nous, hein, quand on était petits. Et eux, ils sont confrontés à ça, c'est sûr.
Juste un dernier mot. En fait, par rapport à l'alimentation, on s'est toujours mis dans la tête que l'alimentation ne devait pas être chère. Mais en fait, on trompe, parce que c'est quand même la base. Et on ne s'étonne pas qu'on paye 1 000 euros de loyer par an, par mois pour un studio. Enfin, peut-être pas 1 000 euros, mais peut-être 500 euros pour un studio sur Chambéry, quoi. C'est normal, on va pleurer parce qu'il faut mettre 1,50€ pour acheter une salade, quoi. Donc je trouve que ce décalage, il est trop énorme et il faudrait repartir sur une base, plus saine, quoi, sur ce que tu disais, voir où est vraiment l'élémentaire, quoi. C'est pas forcément le loyer, l'élémentaire, si on n'a plus rien à bouffer.
Comme on arrive au terme de cette heure et c'est très très court, je vous laisse conclure tous les deux avec un message vraiment pour partir et à nous laisser.
Positif ?
Tant qu'à faire. Je passe une heure. La dernière, l'ultime.
Merci, bonjour à toutes et tous. Moi je m'appelle Jimmy Baba, je suis adjoint au maire à la transition écologique, donc j'ai pas vu d'autres élus, ça doit être moi qui étais... incriminé en fond de salle. Non, je voulais dire juste deux, trois mots, j'ai entendu plein de choses intéressantes. Je suis arrivé un peu en retard, donc il va peut-être y avoir de la redite où vous avez déjà peut-être expliqué un certain nombre de points que je vais soulever. Bon, alors j'ai entendu le procès sur la restauration collective. Alors, j'exagère un peu en disant procès, mais vous n'avez pas complètement tort dans la mesure où je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on en fait au niveau des collectivités, c'est le cas aussi à Chambéry, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, on n'en fait pas assez, on en fait déjà, et effectivement, aujourd'hui, on est à peu près à 30% d'approvisionnement en bio et local au niveau de la restauration collective ici à Chambéry. Je pense qu'on pourrait aller bien plus loin, quand bien même, et Franck le soulignait, il y a un enjeu de structuration aussi des filières, avec... en toile de fond, un peu le sujet de la poule et de l'œuf, et je ne fais pas exprès d'employer une métaphore alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin en matière d'introduction de produits bio locaux tant que les filières ne sont pas structurées, et en même temps les filières ne vont pas se structurer si on n'adresse pas nous, en tant que donneurs d'ordre, commanditaires ou acheteurs, un signal aux filières, aux producteurs, pour qu'ils entreprennent soit une conversion vers la bio, soit une installation. Alors même, et ça a été souligné aussi, qu'on est dans un territoire où le foncier est excessivement cher et excessivement rare, ce qui est assez lié d'ailleurs. Donc ça c'est un premier point, c'est l'état de structuration des filières qui nous bloque, mais sur lequel je pense qu'on peut travailler en s'engageant aussi dans des logiques de contractualisation, de planification, et c'est le rôle que peut avoir aussi un outil comme la restauration collective. Aujourd'hui, alors c'est même plus de 2000 repas par jour qu'on sert, c'est à peu près 3000 à Chambéry, donc c'est un vrai levier pour faire bouger les choses ici, à plusieurs titres, hein, donc sur la question des appros. J'ai entendu le débat aussi, la question qui a été posée sur le bio et ou local, dans quel sens on priorise les choses? Est-ce que ça a du sens de faire venir des produits bio de l'autre côté de la planète versus travailler avec des produits locaux ici dont on n'a aucune garantie sur les conditions d'exploitation? Pour moi, il y a une vraie question. Si on regarde un peu les chiffres, sur quelques chiffres que je connais, je crois avoir souvenir que le bilan carbone d'un produit alimentaire, au sens large, c'est seulement 16% en transport. Et l'essentiel, quand c'est un peu plus de 50%, c'est la consommation de produits phyto, donc production d'engrais et production de pesticides, qui, par des processus qui font appel à gros coups de pétrochimie, tirent le bilan carbone de l'alimentation conventionnelle largement vers le haut. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, point d'interrogation, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le local versus le bio? Moi, j'aurais tendance, comme Franck, à dire, si on peut le faire en bio local, c'est idéal. Alors, par rapport à ça, après, il faut être aussi un peu, je pense, réaliste sur ce qu'on peut faire ici. Alors là, c'est de l'agronomie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cultiver tout et n'importe quoi sur n'importe quel sol. Je regarde Franck pour vérifier s'il ne dit pas trop de bêtises. Il y a certaines productions qui, ici, en Savoie, ne pourraient pas se tenir. Et du coup, pour moi, ça pose la question de la coopération qu'on peut avoir aussi avec d'autres territoires. On a la chance d'être dans une région, je parle de Auvergne-Rhône-Alpes, où on peut trouver à peu près tout. Même les lentilles maintenant, puisqu'on a annexé l'Auvergne, donc on a les lentilles du Puy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'assiette, on peut la relocaliser de manière beaucoup plus facile qu'il y a de ça quelques années. Et en plus, on a des agriculteurs qui sont assez joueurs et qui font pas mal de tests de développement de nouvelles cultures. De nouveaux assolements, de nouvelles rotations. Et on a un secteur d'activité qui évolue et qui innove très vite, y compris en bio, et surtout en bio d'ailleurs. Et ça, je pense qu'il faut, leur rendre grâce, puisque c'est par les efforts justement de recherche et développement qui sont entrepris qu'on peut aujourd'hui on peut viser une forme de, peut-être pas d'autonomie alimentaire en bio au niveau national, mais en tout cas, il y a matière à y avancer. Alors, là, le risque, c'est que je parle beaucoup alors que c'est fini. Parce que j'ai plein de choses à dire sur la question de l'alimentation. On a parlé de bio et local. Je voulais redire aussi qu'il y avait des enjeux importants sur la question du gaspillage alimentaire. Je ne sais pas si vous l'avez cité statistiquement dans les projections qui se font faites sur le scénario after. Aujourd'hui, de tête, c'est 40% de la production mondiale alimentaire qui est balancée à la poubelle. C'est juste un scandale quand on connaît les ressources qui sont gâchées pour ça et les dégradations qui sont infligées aux écosystèmes avec certains types d'agriculture. Donc la question du gaspillage, elle est essentielle, particulièrement à la cantine. Donc il y a des gros efforts de sensibilisation qui sont faits, mais je pense qu'on va encore pas assez loin. Et là, on va arriver à un paradoxe. Troisième point, et après je vais promis, j'arrête. Troisième point, c'est la question de la viande. Le fameux sujet qui est un peu épidermique, particulièrement en ce moment, la question de la viande. Donc aujourd'hui, à Chambéry, on est sur un repas non carné par semaine, plus une alternative tous les jours, donc une alternative végétarienne tous les jours. C'est déjà pas mal. On peut aller plus loin, et en tout cas, moi, je pousse activement en ce sens. Ça a du sens pour des raisons écologiques, pour des raisons de santé, pour des raisons aussi philosophiques, hein, lien au bien-être animal. Donc là-dessus, je pense que... vous y êtes déjà sensible. Le sujet qu'il y a derrière, c'est les compétences de transformation. En fait, cuisiner, c'est transformer des aliments. Et donc, aujourd'hui, on a des outils industriels de transformation, donc en gros la restauration collective, qui ne sont pas encore, je pense, suffisamment bien calibrés et formés pour travailler des nouveaux processus de cuisine. La cuisine végétarienne, c'est pas juste prendre du boulgour et de la sauce tomate, c'est chercher des goûts, des textures, des saveurs. Et tant qu'on n'arrivera pas à franchir ce saut qualitatif sur la question du goût, on sera aussi bloqué parce que y aura du déchet, il y aura de la perte. Ça va même nuire en fait finalement à l'idée de au bienfait de l'introduction de plus d'alimentation non carnée. Et c'est vrai que c'est souvent un argument qui nous est rétorqué quand on dit qu'on veut activement développer le VG à l'école. Donc voilà, je voulais le retirer là-dessus. Et je finirai sur la question de la sensibilisation. Il faut qu'on booste au maximum les efforts qu'on peut faire à destination des, notamment des enfants, enfin, essentiellement des enfants qui sont les consommateurs actuels et de demain. Là-dessus, je vous apprends rien. Alors, anecdote, tous les ans, il y a des animations qui se font pendant la semaine du goût. Il faut savoir que la semaine du goût, c'est une marque déposée par l'industrie du sucre. C'est pas inintéressant aussi de voir comment les goûts de nos enfants, ils sont un peu manipulés aussi par, par certaines industries agroalimentaires qui ont pas mal d'intérêt en, en jeu. Je dis ça en souriant parce qu'en fait, il faudrait que tous les enfants soient confrontés pendant leur scolarité, à plusieurs reprises, sur plein de notions qui ont trait à l'alimentation. Donc je parlais de bien-être animal, la place des légumes, enfin du régime, on va dire, végétarien aussi, dans leur quotidien, la question du casse-pied, la question de la consommation de l'eau, enfin tout ça, ça fait système. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des parents aussi, et qu'il y a un gros effort à faire au niveau des parents. Et là, je vais finir là-dessus, on a un vrai sujet, je pense, de justice sociale, qui est très lié à la justice environnementale. Hein, finalement, les deux combats sont liés. Et c'est comment on arrive à la fois à débloquer les leviers pour que les ménages les plus modestes soient en capacité de bien consommer, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour, entre guillemets, leur santé. Ça, c'est éminemment important. Comment aussi, au-delà de la question de l'accessibilité financière, on se réapproprie le fait simplement de cuisiner des produits bruts et finalement de transformer sa façon de vivre. Ça revient sur la question du rapport au temps, mais aussi je pense à des traditions culinaires qui sont un peu perdues avec une société qui s'est individualisée, avec une hyper-pression du temps tout le temps partout. Et donc il y a tous ces aspects-là sur lesquels il faut travailler et il faut le faire très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc voilà, on va y œuvrer. On est en période de renouvellement de notre délégation de services publics de restauration collective. Et on a tous ces, je vous rassure, voilà, petit lueur d'espoir, je vous rassure, on a tous ces enjeux-là en tête. On les traduit en cahier des charges pour sélectionner le meilleur prestataire l'année prochaine. Et on sera hyper exigeant, y compris en allant challenger, titiller les différents candidats qui vont nous solliciter.
Merci Jimmy Baba pour cet éclairage à la fois politique et aussi pour la suggestion de ce café débat de ce jour. Nous avons largement dépassé le temps imparti et vous avez des contraintes, hein, il faut qu'on vous libère impérativement à 13h30. Donc merci, on peut vous applaudir bien fort pour la qualité de l'intervention, de la qualité du débat. Merci à tous, c'est la fête de la science, n'hésitez pas à prendre le programme de la fête de la science, même le programme de